Chez Orange, on sait que le porte-monnaie de Clara pendant les fêtes, il a...
Bien mangé.
Et elle ne serait pas contre ?
Oh, des petites réducs !
C'est pour ça que du 7 janvier au 3 février chez Orange, pendant les soldes, il y a jusqu'à 60% de remise sur une sélection de téléphones neufs et reconditionnés, ainsi que sur des accessoires.
Et ouais, savourez sans culpabiliser.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 février en France métropolitaine et jusqu'au 29 janvier en Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. Conditions détaillées en boutique Orange et sur orange.fr.
Au ciel.
Bonsoir Michael.
Bonsoir, vous allez bien ?
Très bien, merci beaucoup. Et vous-même ?
On s'était contacté il y a quelque temps et on avait pu échanger sur les problèmes avec ma fille.
D'accord. Alors je veux bien que vous recontextualisiez, Michael, parce que je ne me souviens pas. C'était il y a combien de temps ?
Bien sûr. Il y a quelques mois en arrière, il devait y avoir 6 ou 7 mois.
Ah, 6 ou 7 mois. Alors je veux bien que vous recontextualisiez, s'il vous plaît. Dites-moi.
Donc en fait, ma fille est placée en famille d'accueil depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant. Et en fait, plus ça avance, plus les services sociaux racontent des allégations, des situations fallacieuses qui permettent le placement de mon enfant, de faire d'un placement abusif, de jouer de leur autorité, et c'est plus possible en fait. Je sais pas du tout comment sortir ma fille de
l'aide sociale à l'enfance, finalement.
De cette prison, de leur prison, en fait. Voilà, moi je dis clairement ce que c'est. C'est une prison, dans le sens où, bien sûr, il y a besoin de, et ça j'en suis persuadé.
Oui, d'une institution qui garantit les droits de l'enfant et qui protège l'enfant, surtout, oui.
Exactement, ça j'en suis convaincu, parce que j'ai travaillé en tant qu'éducateur, je suis éducateur sportif et je suis aussi, j'ai travaillé en tant qu'en milieu scolaire en tant qu'assistant d'éducation, donc j'ai vu des choses qui pouvaient permettre la nécessité de pouvoir placer les enfants pour leur protection. Mais quand vous entendez la directrice des services sociaux qui dit « mais on voit très bien que vous aimez votre enfant, on voit très bien que votre enfant vous aime, qu'il y a énormément de complicité, mais c'est parce qu'on vous reproche. On vous reproche le fait, alors leur reproche, c'est d'être trop complice avec son enfant. » Voilà.
Ils disent le contraire. À l'instant, elle vient de dire que justement, elle admirait votre rapport à votre enfant, le lien qui vous unissait. On voit que votre fille est bien avec vous, que vous êtes bien avec votre fille. Donc c'est paradoxal, c'est incohérent.
Mais c'est pour ça, j'ai la chance, j'ai l'épreuve de ce que j'avance sur tous les domaines, parce qu'en fait, cet placement est suite aux accusations fallacieuses de la maman, où je me suis retrouvé en pénal, où j'ai perdu l'autorité parentale et le fait de vouloir protéger mon enfant. Sa maman a été reconnue devoir avoir une aide pour trouver son rôle de maman.
Donc votre fille n'est même pas chez la mère ?
Ah non, ma fille n'est même pas chez sa mère. Il y a un conflit existant entre la mère et moi. Qui sont des conflits d'ordre plutôt financier à la demande de la maman qui demande pension alimentaire, des droits d'occupation, de choses qui durent depuis bientôt maintenant 10 ans.
Oui, mais pourquoi la garde n'a pas été laissée à la mère ? Elle aussi, entre guillemets, elle est jugée inapte à s'occuper de son enfant ?
En fait, la première année de l'instruction JDE, ils ont permis à la maman donc on avait toujours la garde, on va dire la garde partagée, on va dire plus ou moins. Sauf que la maman, elle a eu une aide éducative pour pouvoir retrouver son rôle de mère, alors qu'elle était déjà maman. Et moi, j'ai fait... moi, on m'a juste demandé de ne pas me rendre de moustille de la maman. Sauf que, dans le texte, c'est moi qui devais ramener ma fille chez sa mère, d'où ses plaintes au niveau pénal en disant que je la harcelais. Et le schéma, il est alambiqué d'une manière...
Donc vous aviez, selon les textes juridiques, le devoir de ramener votre fille chez sa mère, et en même temps, elle vous a attaqué, enfin elle en a rajouté en disant que vous l'harceliez parce que vous rameniez l'enfant chez elle.
Exactement. Pareil.
Quel âge avait votre fille à ce moment-là?
Ben, elle avait 10 ans. Donc elle a été, 10 ans, moins 9 ans, elle a été placée dans la foulée au bout d'un an d'enquête au niveau des services sociaux où elle a quand même été aidée pendant un an à retrouver son rôle de mère. La juge a quand même décidé le placement au bout d'un an.
Et vous, pendant ce temps-là, vous avez vu votre fille comment, Michael, pendant ce temps-là?
Moi, je voyais ma fille normalement. Les services sociaux devaient venir à la maison, ils sont jamais venus. Et alors que moi, je leur envoyais... J'ai les preuves de tout ce que je vous ai taillé. J'ai envoyé des mails pour demander des informations, pour demander des rendez-vous, amener les preuves de ce que je disais par rapport au travail que je fournissais pour ma fille et pour l'école, parce que à la période Covid, on a dû aider nos enfants à l'école, puisqu'en tant que parent, on devait se substituer un peu au rôle de professeur par rapport à la situation. Et en fait, ce qui m'a été reproché d'ailleurs par les services sociaux, ça m'a été reproché d'avoir aidé ma fille. Donc, comme je vous disais à l'instant, juste en préambule, le fait qu'on me reproche d'aimer ma fille, d'avoir un aspect complice avec mon enfant et de me le reprocher, en fait. Et j'ai les preuves de ce que je vous ai taillé. J'ai toutes les preuves.
Qu'est-ce qui dit votre avocat ou votre avocate? Qu'est-ce que dit la...
Alors, le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de prendre un avocat, parce que je suis endossé sur endettement, suite aux attaques de mon ex qui dure depuis 10 ans. Voilà. Voilà, donc 8 ans maintenant.
Oui, c'est la spirale. Ans,
donc,
oui.
Et donc en fait, moi là, j'ai perdu mon travail d'agent de sécurité, puisque je suis inscrit sur le dossier juridique en tant que comme une personne malveillante, un danger pour la société, alors que j'ai fait 17 ans de carrière militaire et j'étais en armes, donc j'ai fait des vigipirates, j'étais toujours, je pense, quelqu'un de dangereux, je ne serais pas là. Mais bon, une fois qu'on a des accusations, c'est plus difficile de se retrouver c'est plus facile de mentir et de prouver qu'on n'est pas quelqu'un de menteur. Et tant est comme la justice, notamment la juge des enfants à laquelle j'ai porté plainte, quand elle a vu mon dossier avec les témoignages Sherpa, donc pour les personnes qui savent ce que c'est. C'est des témoignages de gens qui vous connaissent de près ou de loin, qui vous ont vu travailler avec votre enfant, travailler, c'est un métier quand même d'être parent.
Oui, des attestations, vous voulez dire, de proches.
Des attestations, pas forcément de proches.
D'accord, genre l'instituteur ou...
Des instituteurs, des professeurs,
des voisins,
des voisins, des amis, des gens qu'on connaît de loin, enfin voilà, j'ai quand même 45 ou 46 témoignages Sherpa, et donc ces témoignages, c'est des par rapport à leurs écrits, ils expliquent comment, par rapport à une telle ou telle situation, ils expliquent exactement ce qui s'est passé, donc comment on en vit avec mon enfant, voilà, etc. Et ces témoignages, les personnes qui ont eu la gentillesse de témoigner pour moi, il y en a certains qui sont venus d'eux-mêmes, en fait. C'est des parents qui m'ont décollé, qui m'ont téléphoné directement, qui m'ont dit, attends, on se connaît pas, mais je sais, je vous vois sortant de l'école, enfin, je vois votre fille sortir de l'école, de suite, elle vous saute dans les bras, vous discutez avec votre enfant, vous partez, et derrière, parfois, on vous voit sortir de la voiture, on est dans notre voiture, on vous voit passer main dans la main pour aller à l'école. Ma fille avait 8 ou 9 ans à l'époque. Avec les yeux qui pétillent de votre fille, donc moi, nous, on vous fait un témoignage. Donc en fait, Et je dis bien, là, aujourd'hui, la malveillance de la maman, par rapport à, parce qu'elle veut de l'argent en permanence, et je vais y arriver, elle a utilisé ce biais-là en bloquant la plus-value d'une maison qu'on avait en commun, qui est toujours séquestrée dans notre région. Elle a demandé, elle a constitué un dol en bloquant des informations par rapport à une agence immobilière qui prouve qu'en fait la maison ne valait rien et elle demande 800 euros de frais d'occupation par mois du moment où j'étais dans le logement. Je suis plutôt d'accord avec ce truc-là dans la mesure où je n'aurais pas mis 9000 euros d'investissement dans la maison pour pouvoir faire les travaux et prendre du temps, de l'énergie et psychologiquement rester dans la maison seul à devoir faire les travaux pour justement avoir cette petite plus-value. Donc en fait, tout ça, c'est des mensonges en fait. Enfin, elle essaie de toujours enjoliver les choses. Et par rapport à cette situation-là, ma fille est donc, je vous disais que ma fille est placée en famille d'accueil. Donc moi, j'ai bloqué, quand elle a été placée en famille d'accueil, j'ai continué à verser quand même la pension alimentaire qu'on me demandait sur le compte de ma fille. Et après, donc sur le compte de ma fille, mais oui. Sur un compte, et après sur un placement en fait pour elle.
D'accord, vous avez placé l'argent donc pour votre fille quand elle sera plus grande, oui.
Voilà. Sauf que sa maman, la maman de ma fille, a eu la gentillesse de faire venir. De me servir au JAF pour demander la pension alimentaire et de lui verser la pension alimentaire alors que ma fille est placée et en famille d'accueil et qu'elle ne l'a pas à garde. Elle l'a un week-end.
Et elle a obtenu
et oui, elle a gagné.
C'est incroyable. Vous voyez votre fille à quel rythme, Michael?
Moi, je la vois
aujourd'hui.
Une heure tous les 15 jours.
C'est pas beaucoup.
Moi, j'ai perdu
hein.
L'auto. Ah ben non, et c'est ce qui semble un peu désorienter un peu les services sociaux de l'ASE, de la NEF, toutes ces personnes qui gravitent autour de mon enfant et qui pensent que je suis quelqu'un de malveillant pour ma fille, dans le sens où y a une excellente complicité avec ma fille, et que ma fille est intelligente et qu'elle voit comment ça se passe, et que là, elle rentre dans l'adolescence et qu'elle commence un petit peu à montrer les dents, à dire les choses. Ça fait 10 fois qu'elle demande à rentrer à la maison, mais personne ne veut l'entendre, alors qu'il y a le CIDE, c'est la Commission internationale des droits de l'enfant, avec les articles qui sont très précis sur le fondement d'un enfant, l'âge de l'enfant, sa détermination, la manière de dire les choses... la maturité de l'enfant, etc., etc. Ma fille, donc, à savoir que l'ASE l'a perdue dans un parc d'attractions et qu'il y avait, ils m'en avaient pas parlé, c'est dans ma fille qui m'en a parlé. Ils ont perdu, l'éducateur qui était en charge de la colonie et du groupe d'enfants qu'il avait ou la personne
qui l'a retrouvé
alors Michael. En fait justement quand on parle de présence d'esprit ma fille a été voir un responsable du parc un ouvrier du parc pour dire voilà je suis avec tel groupe ils m'ont oublié et voilà en fait ma fille donc c'était au parc
Disneyland oui.
À Disneyland, Paris. Et
oui, c'est pas un petit parc en plus, oui.
Voilà, exactement. Donc en fait, ma fille avait...
Michael, j'entends bien que vous êtes en commission de surendettement, mais est-ce oui. que vous avez pensé prendre un avocat au nom de votre fille? Souvent, ça change la donne.
Je sais pas quelles sont les modalités, comment ça se passe. Alors justement. Le dernier entretien avec l'ASE, justement, donc ce que je disais, le CIDE dit que les enfants doivent être informés de leurs droits, de leurs... C'est très clair, hein, il y a une quarantaine d'articles de loi, si je ne me trompe pas, sur les procédures à faire, et donc l'enfant, c'est marqué, c'est bien stipulé dans un des articles, que l'enfant doit être informé par tous les moyens possibles de ses droits. Donc en fait, moi, tout à l'heure, avant-hier, quand je suis allé... c'est hier, on est vendredi. Avant-hier, quand je suis allé voir ma fille, Quand j'ai dit à ma fille, bon, écoute, papa, il peut pas, il essaie de sortir de là, mais il n'y arrive pas. Toi, il faut que tu prennes un avocat. Et ben là, les services sociaux, ils ont retiré, ils m'ont dit, c'est bon, l'entretien est terminé.
Oui, mais de toute façon, je pense, enfin, je sais pas. D'ailleurs, j'interroge les auditeurs de la Libre Antenne sur le sujet, mais je pense que c'est vous qui pouvez prendre un avocat pour votre fille. Il faudrait que vous demandiez.
Étant donné que je n'ai plus l'autorité parentale, je n'ai plus aucun droit de la protéger. Je ne peux plus la protéger.
C'est votre fille qui doit demander à avoir un avocat.
En fait, normalement, il y a un avocat commis d'office. Et là, je vais revenir sur l'avocat qui avait été mandaté sûrement par la juge, ou pris peut-être par la maman, ou demandé par la maman, peut-être demandé par ma fille. À ce moment-là, quand on est passé la première fois devant la JDE, ma fille, quand je vais vous raconter l'histoire, ma fille avait été appelée la première pour discuter avec la juge. Il y avait la porte qui nous empêchait d'accéder au bureau de la juge. Et quand elle est arrivée, c'est ma fille qui a ouvert la porte. Et quand elle m'a vu derrière la porte, elle me fait « Papa, j'ai oublié de dire ce que maman m'avait dit de dire. » L'avocate de ma fille présente, là, à côté d'elle, a entendu ce que venait de me dire ma fille. Donc, quand on parle d'aliénation parentale, c'est avéré que, par les propos de ma fille, devant son avocate, il y avait de l'aliénation parentale. Sauf que l'avocate, au lieu de défendre mon enfant, donc l'avocate de mon enfant qui devait la défendre et faire attention à ce qui se passait, a pris quand même le parti de mon ex. Donc en fait, je suis pas quelqu'un de misogyne, j'ai créé 4 équipes de foot féminin. Je suis éducateur sportif, je me suis occupé d'enfants, j'ai au collège, machin, etc. Mais il y a un pouvoir incommensurable dans ces services pour détruire les... Alors, moi, en tant qu'homme, et très souvent le parent qui est plus à même de prendre en compte l'enfant. Je parle, je dis pas que je suis parfait, j'ai mes erreurs, je fais des erreurs comme tout le monde. Hein. Papa, c'est un métier, maman, c'est un métier. On n'est jamais parfait. Il y a des périodes où c'est plus facile, d'autres moments où c'est plus compliqué. Mais en fait, les accusations fallacieuses, c'est plus difficile quand on raconte la vérité, on nous croit pas, en fait. Quand on dit les choses, on amène des preuves. La juge, quand je lui ai amené le dossier 2 ans après, à la juge que je ne citerai pas, à qui j'ai porté plainte et qui a été déplacée, hein. Mm-hmm. Véridique, hein. 2 mois après, elle était déplacée. Elle a pris mon dossier que j'avais fait moi-même, que j'avais pas les moyens de prendre un avocat. J'avais les attestations sur l'honneur, les preuves qui disaient que je voulais bien travailler avec les services sociaux, mais que les services sociaux ont menti parce qu'ils voulaient pas que je travaille avec eux, que je posais des questions. Donc tout ça par mail. Les mails, je les ai sortis un par un. J'ai sorti les textes qui étaient marqués, la protection pour ma fille. Mais quand vous avez la juge qui fait de l'abus d'autorité, c'est pour ça que j'ai porté plainte contre elle, alors envoyant au procureur de la République et à 5 ou 6 reprises par rapport aux dernières actions que la NEF et que l'ASE fait, la juge regarde mon dossier, me regarde, monsieur Lavallée, vous avez un avocat? Ah bah c'est dommage, on va le mettre de côté votre dossier, et la prendre la revers de main et la mettre à droite de son bureau. Ils s'en foutent en fait.
N'empêche que vous avez... Alors, vous n'avez pas pu aider votre fille, mais en revanche, vous avez pu faire porter plainte contre la juge, tout de même. Et vous avez été entendu.
De toute façon, là, je suis à la 6e ou 7e plainte, parce qu'en fait, là, je suis accusé... Les gens vont entendre, hein. Comme si j'étais un papa incestueux. Tous les gens qui me connaissent, qui entendront cette... ce truc, parce qu'ils n'arrivent pas à me faire craquer. Mais si, je craque psychologiquement, je pleure. Je n'arrive pas à sortir ma fille. Les accusations fallacieuses que les gens utilisent pour détruire la vie des gens et la vie des enfants qui sont en place, c'est un écœurement, mais monumentale. Ces gens ont un pouvoir et personne ne contrôle ces gens-là. Personne ne les contrôle.
Michael, en fait, en 6 mois, votre dossier n'a pas du tout, 6-7 mois, votre dossier n'a pas du tout évolué.
Il n'a pas évolué et ça a tendance un petit peu à
empirer.
À empirer, puisqu'en fait, maintenant, il m'accuse limite d'avoir des... J'ai la preuve de ce que je vous avance, hein. J'ai la preuve. Donc, s'il y a une âme... Je profite de votre antenne pour le dire. S'il y a une âme bienveillante, un juge qui entend ces trucs-là, un avocat qui est des parents qui sont dans le même cas que moi, où ils se trouvent... Je vais essayer d'être poli, enfumé dans des situations comme celle-ci. Il faut qu'on fasse
front ensemble.
Qu'on fasse front, quoi. Nos enfants, ils méritent pas ça. Il y a bien sûr qu'il y a des enfants qui en ont besoin, parce que c'est vrai qu'il y a.
Il n'existe pas d'association de parents victimes des abus de l'aide sociale à l'enfance.
J'ai fait appel à une association. J'ai pris l'avocat de l'association qui, elle se reconnaîtra si elle écoute votre antenne, qui ne m'a pas bien défendu. Voilà. Moi, je trouve qu'elle n'a pas fait son travail.
Michael, je vous propose en tout cas de nous rappeler, quand vous le souhaitez d'ailleurs, pour nous donner des nouvelles de votre petite fille qui grandit. Effectivement, qui est loin de vous depuis maintenant 2 ans, mais finalement, le fait qu'elle grandisse va peut-être la servir aussi pour être entendue, pour que la parole compte.
C'est un système, je vais parler crûment, c'est un système corrompu en fait. C'est un système corrompu, c'est comme à l'armée. J'ai travaillé 17 ans à l'armée. S'il se passait quelque chose, c'est la grande lunette, et dans ces services-là, on va pas aller à l'encontre d'un collègue. Même si on a regardé l'affaire Dreyfus des années, on a pris 40 ans après, on est revenu sur la décision, mais c'était au moment T, si on n'avait été pas sûr, qu'est-ce qui se passe? Mais le mensonge fait foi dans ce monde aujourd'hui. Le mensonge, la trahison, c'est dans ce pays, dans ce monde en fait. Et ce qui est tout simplement parce qu'il y a toujours cette notion d'argent derrière. Moi, si j'en avais, j'aurais donné l'argent à mon ex et voilà, je m'en fous personnellement de l'argent. C'est pas ça qui me fait vivre. Moi, c'est l'amour de mon enfant. C'est la tendresse de mon enfant. C'est l'avoir rien. Essayer de l'avoir et pas s'épanouir, mais là, on est en train de nous détruire. Je ne sais pas comment faire.
Michael, si on a des contacts à vous donner ce soir dans la libre antenne d'Europe 1, on le fait évidemment. Vous connaissez notre promesse. Donc si des personnes sont dans la même situation que vous, ne savent pas vers qui se tourner, au moins, avant de faire bouger les lignes, au moins échanger entre vous, ces familles qui sont déchirées par ces décisions, par la lenteur de la justice. Même si parfois, évidemment, elle est faite pour protéger les enfants. On vous donne tous ces contacts et je vous propose de nous rappeler quand vous le souhaitez, Michael, pour nous
merci
dire
beaucoup,
la suite de votre dossier. Et je vous embrasse, Michael, je vous embrasse.
S'il y a quelqu'un qui... Moi, je suis prêt à témoigner devant la télé aussi. Je veux que...
Votre message est passé. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Bonjour William, bonsoir.
Bonsoir.
William, vous aviez réagi il y a quelques jours au témoignage d'une auditrice que nous avions eue, Célia, qui nous confiait ses difficultés, son addiction à l'alcool, les conséquences que ça avait sur sa santé. On avait longuement parlé, elle disait que l'alcool la rassurait, elle n'arrivait pas à se détacher de ce besoin.
Ça, oui.
Et vous-même, vous avez eu une histoire un peu analogue, parce que je crois que vous avez été.
Son histoire m'a touché en fait. Donc du coup, quand j'ai entendu son histoire et que après j'ai entendu veuillez appeler si vous avez un peu la même chose à. Enfin, si vous avez vécu à peu près la même chose, veuillez contacter. Et bah, du coup, j'ai appelé direct parce que oui, en effet, oui, son histoire m'a touché.
Et elle vous a touché pourquoi ? Parce qu'elle faisait écho et miroir un peu à votre propre histoire ?
Oui, parce que au niveau de l'alcool, au niveau de la libération de soi-même, au niveau de plein de choses, puisque quand on est dans l'alcool, c'est pas vraiment quelque chose de beau et qu'il y a toute une histoire derrière et que plein d'auditeurs peuvent entendre et que je me dis que beaucoup d'histoires touchant ce domaine-là peuvent aider beaucoup de personnes. Donc je me suis permis d'appeler l'antenne et de me dire peut-être que mon histoire aussi peut toucher certains auditeurs.
Bien sûr. Et quelle est votre histoire alors, William? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Moi, je suis pas quelqu'un qui parle. Déjà, je vais pas voir de psychologue parce que je suis anti-psychologue et j'ai toujours fait ma propre psychologie, on va dire. Donc,
vous avez eu de mauvaises rencontres auprès de psychologues, mauvaises expériences?
Oui, parce que la plupart des psychologues que j'ai rencontrés posent toujours malheureusement les mêmes questions et ça rabâche et c'est pas ça qui m'aide. Donc, et puis je suis quelqu'un qui avance, qui essaye d'avancer très vite. Donc quand on va voir un psychologue et qu'on vous dit vous êtes d'où, vous êtes né où, vous faites quoi, moi ça me perturbe. Donc j'ai pas réussi à tenir deux séances, on va dire. Donc
pourquoi vous aviez eu besoin de rencontrer peut-être ou de consulter un psychologue?
Alors, ça remonte à quelques années. C'était suite au décès de ma sœur qui a eu lieu en 2006, on va dire.
Mmh. Votre sœur avait un accident ou elle était malade?
Non, elle a eu un cancer foudroyant à l'âge de 33 ans et j'en avais à peine 18. Mais, mais ma sœur, c'était ma deuxième maman. Donc, quand elle est partie, on va dire que j'ai perdu une partie moi-même. Donc...
Vous êtes extrêmement jeune. Vous avez. J'essaye de calculer. Vous avez 40 ans.
Actuellement, je vais sur mes 39 ans. Oui.
39 ans, c'est ça. J'avais calculé 40, mais oui. Donc vous êtes extrêmement jeune. Donc vous avez perdu votre sœur brutalement, violemment. Vous aviez 18 ans à l'époque. Vous étiez que deux enfants, deux frères, enfin un frère et une sœur.
Non, j'avais mes deux sœurs, dont une qui est décédée, et j'en ai une autre, et j'ai un grand frère et un petit frère derrière.
Ah oui, donc vous étiez cinq enfants.
Ouais, une grande famille, ouais.
cinq enfants. Vous étiez proche de votre sœur ?
De ma grande sœur, oui. J'en étais très, très proche, oui.
Et à partir de là, quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre tête, dans votre comportement ?
Bah, ça a été un chamboulement total, en fait. Moi, je l'ai vue à l'hôpital plusieurs fois, et deux fois, et arrivé à un moment, j'ai dit stop, j'ai même dormi avec elle à l'hôpital, malgré que j'étais très jeune.
Et c'est là où vous avez commencé à sombrer dans l'alcool ?
En fait, quand elle est partie, au moment où elle est partie, malheureusement, j'ai perdu aussi une partie de moi-même. Donc j'ai eu très, très... j'étais jeune déjà, donc j'ai eu très mal à le prendre sur moi. Donc après, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait ma vie et j'ai eu un enfant. Et malheureusement, quand mon enfant est né, je sais pas comment ça a dû se goupiller dans mon cerveau, mais quand mon enfant est né, une naissance que ma sœur n'a pas connue, et là j'ai pété les plombs en fait. Donc oui, j'ai.
Et pourtant, vous disiez que vous aviez d'autres sœurs, deux autres sœurs, un frère. Vous aviez aussi, j'imagine, vos parents.
J'avais pas aussi autant d'affinité qu'avec ma grande sœur. Ma grande sœur, c'était vraiment ma deuxième maman. Donc.
Et votre compagne, la maman de votre enfant, vous n'avez pas réussi également à vous appuyer sur elle, à dialoguer avec elle de ce manque, de cette difficulté ?
Elle était au courant de tout, elle a été là du début à la fin, mais ça malheureusement pas suffi.
Vous êtes devenu papa à quel âge ?
À 20 ans, 20, ah oui, 20,
vous
20
ans. Vous étiez très jeune, donc 2 ans après la disparition de votre sœur.
Ma grande fille, à l'heure d'aujourd'hui, va sortir ses 18 ans. Donc.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, le poids tout d'un coup de cette paternité, le manque de votre sœur que vous n'aviez pas encore exprimé, vous a amené à fréquenter l'alcool.
Ça a été un chamboulement, en fait, me dire que je suis papa et que j'aurais aimé que ma sœur, et je me suis toujours dit que ma sœur rencontrerait mes enfants, et que, et bien en fait, ça a été un chamboulement total dans ma tête, et que j'ai pas pu faire ce que je voulais réaliser, et que j'ai noyé mes chagrins. Je buvais beaucoup en ce temps-là, je buvais pratiquement 2 litres de whisky par jour.
Deux litres.
Oh, j'habitais pas loin du Pas de la Case, donc c'était très facile d'avoir de l'alcool, on va dire. Donc,
c'est quoi le Pas de la Case ? C'est un magasin, c'est quoi ?
Non, le Pas de la Case, c'est la principauté de l'Ariège, donc au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Ariège, c'est très facile. Donc l'alcool était très facile, et puis voilà. Donc,
et donc vous étiez quasiment sous en permanence ?
Oui, en partie.
Et vous vous cachiez pour boire ou vous buviez en assurant ?
Non, je ne me cachais pas du tout, mais après j'ai un passé derrière qui fait que j'ai eu un papa alcoolique, et qui l'est encore d'ailleurs, toute ma vie, et que je me suis toujours dit, moi je ne veux pas être comme lui, je ne veux pas refléter l'image que j'ai déjà vécue, parce que c'est une image un peu traumatisante. Et du coup, le fait d'avoir un enfant, ça m'a aussi beaucoup aidé par la suite.
Ça vous a aidé, pourtant ça a déclenché, c'est ce que vous disiez au départ, ce besoin irrépressible de vous plonger dans l'alcool.
En fait, ce qui m'a fait plonger dans l'alcool, c'est que j'étais perdu par rapport le fait de perdre ma sœur et d'avoir une naissance. Et que moi, mes enfants, je voulais les présenter à ma sœur, donc je ne savais plus où j'étais, et puis j'étais très jeune aussi. Donc, c'est ce qui me fait que je me suis perdu, en fait.
Vous aviez perdu tous les repères.
J'avais perdu totalement tous mes repères, et puis quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très joyeux, de très festif, j'avais besoin de rien pour faire rire tout le monde, en fait. J'aimais jamais faire rire ma sœur. C'était mon principal but. Et quand je voyais ma sœur rire, ma mère rire, ou mes autres sœurs et mes frères rire, j'étais le plus heureux au monde. Et en fait, quand ma sœur est partie, eh bien, j'ai perdu cette partie de moi qui me permettait de faire rire à tout le monde, en fait.
Donc, et justement, cette petite fille que vous avez eue, vous l'avez pas appelée le nom de votre sœur, par exemple, vous avez pas...
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pendant que, malheureusement, j'étais jeune, et quand je me suis perdu dans l'alcool, avant de me perdre dans l'alcool, je m'étais déjà réfugié dans les jeux vidéo. Donc je m'étais réfugié dans les jeux vidéo, et puis au final, le nom de ma fille vient d'un monde un peu elfique des jeux vidéo que je jouais. Je vais pas faire de pub. Et puis voilà, ça a été un tout. Et non, je pouvais pas donner le nom de ma sœur pour ma fille en aucun cas. Non. Après, elle porte son nom en deuxième prénom, ça c'est sûr.
Et votre compagne n'a pas réussi à vous aider, n'a pas réussi vous lui en avez parlé, vous avez dit, vous lui avez parlé de ce manque au quotidien de votre sœur, de ce que de la tristesse qui vous animait, de ce que vous ressentiez.
Bien sûr, j'ai eu des crises d'angoisse, je ne dormais plus, je la nuit je tremblais et elle savait tout, mais je pense que j'étais tellement renfermé dans toute cette peine et dans la perte de l'alcool, on va dire, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais dire que je reste un alcoolique, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup bu, beaucoup bu à me perdre, à en faire n'importe quoi, et plus à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai grandi, mais je sais que moi personnellement, je reste fragile, donc. Non.
L'alcool, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il provoquait? Il vous apaisait? Il vous permettait de supporter l'insupportable, donc la perte de votre sœur, la disparition de votre sœur?
Me permettait, on va dire, d'oublier.
D'oublier la douleur, d'oublier que votre sœur n'était plus là.
Non. Dans tous les cas, quand on boit, on oublie sur le coup. On est dans un autre monde, on est dans...
Si ce n'est que le réveil est terrible.
Le réveil est très brutal le lendemain, parce que d'une, on est malade, on n'est pas bien, mais les problèmes sont toujours là et on ne les oublie jamais, malheureusement.
Votre compagne est restée avec vous?
Oui, on est restés ensemble un petit bout de temps, on a fait 7 ans de vie commune, oui.
Malgré votre addiction à l'alcool?
Malgré mon addiction, après il y a eu d'autres choses. On a eu des blancs, des bas, et puis on a eu d'autres enfants. Alors d'aujourd'hui, j'en ai 6, donc.
Vous avez 6 enfants? Vous avez 6 enfants, William, avec la même compagne?
Non, pas avec la même compagne. Avec la même compagne, j'en ai 3.
Ah oui, d'accord. Mais alors, vous avez plusieurs années bu beaucoup d'alcool. Ça a duré, je sais pas, quelques années, 3 ans, 4 ans.
Ça a duré jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et que même à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je peux reflanchir à n'importe quel moment, on va dire.
Mais alors, vous avez pu faire ces 6 enfants malgré cette consommation, importante d'alcool?
Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'années. En fait, à ma première fille, arrivé un moment, j'ai dit stop. J'ai tout lâché, j'ai tout arrêté, je me suis repris en main. Et puis, je vais pas l'apprendre aux auditeurs, je vais pas l'apprendre à vous non plus. Quand on est dans l'alcool, la moindre petite contrariété, la moindre petite chose peut nous permettre de retomber dedans. Donc,
vous n'avez pas essayé de vous soigner, vous n'avez pas essayé de vous sevrer, vous n'avez pas essayé de suivre des thérapies. Alors j'ai bien compris que les psys n'étaient pas vos meilleurs amis, mais pour autant. Vous n'avez pas fréquenté les alcooliques anonymes, vous n'avez pas...
J'ai fait plusieurs démarches, j'ai fait plusieurs ceci, j'ai fait énormément de choses, mais le problème, c'est que on a beau... Moi, à l'heure actuelle, je sais ce que je veux, je sais que je ne touche plus d'alcool, je ne fais plus... voilà, sauf petite soirée, sauf voilà, j'ai fait très attention parce que comme on va dire, d'année en année on prend un peu de la bouteille et puis on comprend certaines choses, mais voilà, si j'ai fait énormément de choses, mais quand on est jeune on veut pas prendre de moi actuellement je veux pas prendre de médicaments parce que je suis anti médicaments, même rien qu'un Doliprane j'ai du mal à le prendre. Mais étant plus jeune, non, je ne voulais pas. Et puis, non, c'était très compliqué. Vraiment très compliqué.
Aujourd'hui, vous pensez avoir suffisamment de maîtrise pour ne pas totalement replonger?
Exactement. À l'heure d'aujourd'hui, ouais, je sais ce que je veux. Bien sûr.
Vous travaillez?
On va dire que je travaille dès lundi. Parce que ma vie recommence à zéro. Parce que, on a des bas et des hauts dans une vie et que là, je dois tout recommencer. Et que...
Ça veut dire que vous aviez des activités avant, une activité professionnelle avant, j'imagine?
Bien sûr. J'ai été tourneur fraiseur pendant quelques années.
Ouais.
Et ensuite, j'ai dû partir de là où j'étais et j'ai atterri, on va dire, la ville, mais bon. J'ai atterri sur Nîmes, j'ai refait ma vie, j'ai eu 3 enfants.
Ouais.
Et du coup, tout s'arrête à l'heure d'aujourd'hui et je retourne là où j'étais avant. Et je repars tourneur fraiseur, mais avant ça, j'ai passé après d'autres diplômes. J'ai eu un CAP,
d'autres formations. D'accord. Et donc, vous aviez une première compagne avec laquelle vous avez eu 3 enfants, une deuxième compagne, c'est ce que vous disiez là, avec qui vous avez eu 3 autres enfants, et là vous repartez dans votre ville où vous étiez à l'époque d'origine, et donc vous quittez cette deuxième compagne aussi?
Exactement, parce que il y a des faits dans la vie qui arrivent et que parfois on ne contrôle pas tout, et puis c'est comme ça, les sentiments.
Et comment ça se passe avec les enfants? Comment vous faites?
C'est compliqué. C'est très compliqué, sachant qu'en plus je vis tout seul, du coup, avec un de mes enfants de ma première union.
Mmh.
Et actuellement, on fait comme on peut. Je suis hébergé chez mon beau-père. C'est très compliqué. En plus, parler de tout ça à l'antenne, c'est encore plus compliqué.
Bien sûr. Non, mais si ça vous ennuie, évidemment, on ne va pas aborder.
Non, ça ne m'ennuie pas. Mais après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais c'est vraiment très...
Je comprends, mais vous voyez régulièrement vos 6 enfants?
Alors, régulièrement, non, parce qu'actuellement, je suis arrivé... dans ma ville d'origine, on va dire, depuis très peu de temps. Donc, je les vois pas tous, pas maintenant. Ça va se faire, mais non.
Ils sont importants pour vous, vos enfants?
Bien sûr, c'est toute ma vie. C'est ce qui m'a permis, justement, d'arrêter de consommer de l'alcool à outrance, de faire n'importe quoi. C'est mes enfants qui, en quelque sorte, mais c'est même pas en quelque sorte, c'est mes enfants qui m'ont sauvé, en fait. Je n'aurais pas eu mes enfants, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais je ne serais pas là.
Vous ne vouliez surtout pas leur donner l'image que votre père vous donnait vous-même quand vous étiez jeune?
Exactement, vous avez tout compris.
Donc c'est important aujourd'hui, vous vous battez aujourd'hui pour avoir ce père présent, ce père aimant. Quand vous dites votre beau-père qui vous héberge, c'est le compagnon de votre maman?
Oui.
Parce que votre père, du coup, est séparé de votre maman.
Qui m'a élevé depuis tout petit, on va dire. Mais qui sont un peu séparés, c'est des vieux, donc ils tirent un petit peu la paille, mais c'est la vie.
Et vous êtes avec l'un de vos enfants chez votre beau-père, chez votre maman aussi, du coup?
Non. Ma maman a son appartement, mon beau-père a son appartement et je suis chez lui.
D'accord. Vous disiez qu'une nouvelle vie commence, c'est-à-dire que vous avez retrouvé un nouvel emploi.
Vous avez retrouvé une femme, déjà.
Et vous avez retrouvé une femme aussi?
Ouais, j'ai retrouvé une femme auquel je tiens énormément.
Ça veut dire
et
que...
Si elle écoute, j'ai fait des énormes bisous. Et que... Comme je lui ai dit, j'ai rien à cacher. Donc, je lui dirai tout.
Mais c'est une femme que vous venez de rencontrer ou que vous avez retrouvée ?
Non, que j'ai rencontré il y a quelque temps et que j'espère que ça perdurera parce que j'y tiens.
Bah, tant mieux, c'est bien.
Voilà,
c'est bien.
Et donc, puis j'ai retrouvé un emploi, j'ai retrouvé plein de choses, sauf que j'ai pas retrouvé de logement. Je suis encore hébergé. Donc,
avec votre emploi, peut-être que vous allez pouvoir retrouver ce logement. Et puis, si vous êtes avec cette nouvelle rencontre, peut-être que vous allez pouvoir prendre un appartement ensemble, si c'est possible.
Oui, certes, mais après, je veux pas aller trop vite non plus. Il y a d'autres circonstances qui rentrent en considération derrière. Mais oui, pourquoi pas.
Ben écoutez, William, merci de nous avoir confié ce parcours, nous avoir confié en miroir de ce que nous avait dit Sylvia, votre propre expérience. Alors, on a parfaitement compris ce qui vous avait amené, hélas, à plonger dans l'enfer de l'alcool. Et on entend aujourd'hui tout ce que vous avez mis en place pour essayer de vous en sortir. Vous avez déjà 6 enfants, c'est quand même...
C'est mes enfants. Après, si je peux donner un conseil aux auditeurs qui sont là, c'est mais qu'il faut pas en fait s'écouter dans son malheur. Il faut se lever, il faut penser à autre chose. Il faut donner du meilleur de soi-même déjà pour soi, parce que c'est très important de pas se laisser sombrer pour soi-même. C'est quelque chose que je refuse. Quelqu'un que je me bats tous les jours, hein. je me couche avec des questions et je me lève avec des questions et des réponses. Et qu'il faut pas se laisser, aller. C'est très dur, je le dis pas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, quand on me propose, William, viens boire un coup, ceci, cela, suivant les personnes, je me tatate 2 fois avant de dire oui, parce que je sais comment ça pourrait finir et que je ne veux pas, donc je me refuse d'aller voir certaines personnes.
Et oui, il faut avoir une force, il faut avoir ce libre arbitre qui vous permet de ne pas tomber dans le piège, parce que...
Un libre arbitre, une force mentale, et c'est pas donné à tout le monde.
Mais quand vous pensez à vos 6 enfants, quand vous pensez à ce que vous avez vécu vous-même avec ce papa qui rentrait ivre et alcoolique et qui vous a un peu brisé quand vous étiez jeune, rien que cette image doit vous amener à vous dire que c'est pas du tout ce que vous voulez livrer aux autres, et puis à la femme que vous venez de rencontrer aussi.
Exactement, et puis moi, mon papa, je l'ai connu très virulent, faisant des choses vraiment pas drôles à ma maman, donc voilà, moi je ne veux pas donner cette image-là ni à mes enfants ni à personne. Mais après, c'est vrai que quand on boit, on peut pas tout excuser par rapport à l'alcool, du comportement par rapport à l'alcool, parce que l'alcool reflète en vérité des choses qu'on ne veut pas, nous, en temps normal, dégager, on va dire.
Je comprends. Donc, vous avez tout à fait raison.
On dit quand on a bu, c'est des choses qu'on veut dire quand on ne boit pas, mais qu'on n'ose pas dire.
Oui, on est totalement désinhibé, bien sûr. L'alcool désinhibe totalement.
Exactement. Donc il faut prendre sur soi, il faut savoir s'écouter, il faut se parler, il faut à soi-même. C'est pas donné à tout le monde aussi. Et c'est pour ça que je disais, moi j'aime faire ma propre psychologie, parler à
quelqu'un. Oui, mais c'est pas donné non plus à tout le monde de pouvoir s'auto-évaluer. Vous le faites très bien, William, tant mieux. Mais c'est pas toujours la preuve. Vous êtes retombé parfois dans cet enfer, donc c'est compliqué.
Qu'à l'heure actuelle, si demain je perds, je pense peut-être beaucoup ou autre, je serai quelqu'un de très fragile par rapport à tout ça.
Ouais, mais vous avez raison de mettre tout ça à plat et d'y réfléchir. En tout cas, merci beaucoup, William, d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 ce soir dans cette libre antenne. Donnez-nous de bonnes nouvelles. À bientôt.
Allez, à bientôt.
Libre Antenne revient ce soir à partir de 22h30 et jusqu'à 1h. Vous pourrez converser avec Valérie Darmon pour la joindre 01 80 20 39 21. Vous lui laissez un petit message avec vos coordonnées. Et puis l'équipe de la Libre Antenne vous rappellera 01 80 20 39 21. La suite du programme, c'est Culture Média avec Thomas Hill et ses chroniqueurs et ses invités. Alors ce jeudi, il a reçu notamment Thibaut de Montalembert, le comédien qui nous parle de la pièce « Seuls mes cheveux sont gris » à voir au Théâtre Libre à Paris à partir du 5 février. Et ce sera donc juste après Sting avec un titre issu de son album « My Songs » qui est sorti en 2019. C'est une sorte d'hommage à sa discographie puisqu'il y revisite plusieurs des chansons de son répertoire solo ou de celui du groupe de Police d'ailleurs. Allez, on écoute « If you love somebody, set them free ».
If you love somebody, 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 if you love somebody,
Gogh, qui pour l'album My Songs a réenregistré 15 de ses plus grands hits, dont celui qu'on vient d'écouter, If You Love Somebody, Set Them Free, sorti en 1985, hein, à l'origine. Et voilà, on vient d'en écouter la nouvelle version qui dépote, comme on dit, version 2019. Allez, il nous reste une émission à redécouvrir sur Europe 1 avant de retrouver Alexandre Lemaire pour les infos, c'est Culture Média avec Thomas Hill que vous retrouvez tous les matins de la semaine de 10h à 11h30.
Thomas Hill. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média ou pour la 494e fois de ma vie, je vais dire bonjour Anissa, Dani et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Ben oui, ma 500e approche.
Ouais. Attention. Oh là là.
Ce sera vendredi en 8, comme on dit dans le bouchonnois, vendredi de la semaine prochaine. Et ça y est, le communiqué de presse est parti là, hier, avec la liste des invités. Ouais, je peux vous dire, ça va être quelque chose. Hein. Je ne sais même pas comment je vais réussir à faire parler tous ces gens. Il va y avoir Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker. Rien qu'eux deux, ça aurait été suffisant déjà pour 2-3 émissions. Il y aura aussi en médias Cyril Ferro, Isabelle Iturburu, Stéphane Rothenberg, et côté culture, alors que des copains de l'émission, Bérangère Krief, Maxime Gasteuil, Pascal Obispo, Barbara Pravi qui vont chanter évidemment, et puis aussi des petites surprises qu'on vous prévoit bien sûr, tout ça en
surprise.
Direct.
Vous pouvez pas le dire, oui.
C'est le principe d'une surprise.
Julien Pichenet, il débarque lui.
Et du public,
ça c'est pas une surprise, ce sera en direct, évidemment, en direct, en public, du grand studio Europe 1, ça va être complètement fou, ce sera vendredi prochain. En attendant, on a un très beau programme ce matin, avec d'abord, pour la première fois ici, un journaliste multicasquette, multiposte, présentateur de la matinale de CNews, de la grande interview politique du vendredi et du rendez-vous, et si on en parlait l'après-midi sur Europe 1, bonjour Romain Desarbres.
Bonjour Thomas Hill, merci beaucoup de m'inviter.
J'en suis très heureux, merci de prendre le temps, surtout vous, de venir ce matin, parce que c'est vrai que vous devez avoir des semaines assez chargées.
Les semaines sont bien chargées, ça va vite, effectivement.
C'est costaud, vous naviguez entre les étages.
Entre l'étage de CNews et l'étage d'Europe 1, effectivement.
C'est pour ça qu'il a de bonnes cuisses.
Il est en forme.
Il fait tout ça par les escaliers. Et puis alors, dans la deuxième partie, c'est un comédien de théâtre qui s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans la série 10% qui sera avec nous. Thibaut de Montalembert sera là. Il remonte sur scène à partir du 5 février pour une pièce sur l'amour, sur l'amitié. Ça s'appelle « Seuls mes cheveux sont gris ». On parlera aussi série avec la Queen et Louise Goy, et cinéma avec une personne que vous connaissez bien, Romain Desarbres, Olivier Benkemoun, parce que lui aussi il est sur CNews. On le retrouve aussi bien sûr chemise ouverte en vitrine de Mondial Moquette, bien sûr. Et puis...